Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous pour cette émission diagonale ?
Je vais très très bien. Et avant que nous allions plus loin, je souhaite faire une petite présentation d'un de nouveaux partenaires, qui est Sylvain Blanc, qui est assis autour de cette table avec nous, qui va partager l'émission de ce jour, et j'espère, plus qu'espérer, j'en suis à peu près certain, partagera nos élucubrations qui viendront dans les prochaines émissions aussi. Alors Sylvain Blanc, qu'est-ce que je vais dire de lui ?
Bonjour Sylvain.
Bonjour Jean-Marc, bonjour Bernard, merci pour ton invitation.
Voilà, et je vais quand même le situer parce que je pense que c'est un qualificatif qui est important, ça le situe. Pour moi, c'est quelque chose, c'est plus qu'une activité, c'est une profession, c'est presque une vocation. Sylvain Blanc est apiculteur. Alors, c'est forcément quelqu'un qui est habitué à s'intéresser aux choses, bien sûr, de la nature en premier, mais qui est habitué à s'intéresser aux choses vraies, parce qu'on ne triche pas avec les abeilles.
On ne triche pas, Bernard. Je pense que tu as dit suffisamment de choses sur le sujet.
Voilà, donc on va avoir des réflexions très, très appropriées, très pointues, qui vont...
Très pointues, c'est Frédéric Dard qui disait ça.
Voilà, oui, surtout avec les abeilles, oui.
Et le thème d'aujourd'hui, Bernard ?
Le thème d'aujourd'hui, je vous propose le mot « risque ». Alors, si vous voulez, je vais vous raconter deux, trois mots, et puis après, on ouvrira le débat. Et... comme à peu près d'habitude, j'ai essayé d'introduire le sujet par deux ou trois citations que j'ai volées à des auteurs. La première, je l'ai volée à Amélie Nothomb, dans un texte qui s'appelle « Cosmétique de l'ennemi ». Le risque, c'est la vie même. On ne peut risquer que sa vie. Et si l'on ne la risque pas, on ne vit pas. La deuxième formule, je l'ai empruntée à Françoise Dolto dans l'Évangile au risque de la psychanalyse. Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir. Et la troisième, à Norbert Ben Saïd, je lui ai emprunté une phrase extraite d'un texte qui s'appelle « La lumière médicale ». À vouloir supprimer tous les risques, c'est la vie elle-même qu'on réduit à rien. Après ces trois phrases introductives, il faudra bien que je me...
mette près du micro.
Ouais, que je me mette près du micro. Voilà, merci. Il faudra bien que je me risque, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, à m'expliquer sur la raison du choix de ce mot et dire ce qui fait écho chez moi à ce mot. Pourquoi avoir fait ce choix ? Vous allez, je pense, être d'accord avec moi que c'est un mot que l'on entend plusieurs fois par jour. Dans tous les lieux et tous les milieux, et accommodé à toutes les sauces. Vous me pardonnerez cette expression un peu triviale, qui a le mérite de faire comprendre que l'usage de ce mot risque, pour ne pas dire l'abus, confine à l'inconscience et à l'ignorance des plus élémentaires. Au titre du principe de précaution, et pour faire diminuer les risques, il a été décidé ceci ou cela. Cela tout simplement pour dire que nous recherchons dans cette situation le risque zéro, c'est-à-dire que la réussite de cette situation est assurée. Mesdames et messieurs, vous pouvez dormir tranquille, la situation est sous contrôle. Que cherchons-nous à croire ? Quelle illusion bâtissons-nous ? Nous bâtissons l'illusion de notre permanence, et nous y voilà. Nous refusons notre situation d'acteur au profit d'une situation de soumis, la tête dans le sable. C'est l'attitude de l'ignorant qui veut rester cet ignorant par arrogance bestiale. Cette situation fait le bonheur des gourous en tout genre qui n'ont de cesse de promettre la substitution de leur savoir à celui des autres afin d'assurer le tout risque à leurs serfs. Et pourtant, n'est-ce pas faire démonstration d'inconscience que de ne pas considérer sa vie comme l'expression du risque ? Car elle nous conduit irrémédiablement vers la mort que l'on ne peut éviter. Alors se pose la question, pourquoi vivre et comment vivre puisque le risque est le même pour tout le monde, bon, méchant, beau, laid, honnête, voyou, respectueux des autres ou criminel.
Est-ce que la vie est le fruit du hasard ?
Voilà, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais ce risque est nécessaire. Et il faut qu'il soit suffisamment important pour que l'être ne soit pas réduit à satisfaire son besoin fondamental de risque par des sensations violentes provoquées artificiellement par les médias. Simone Veil, pas l'ex-ministre, mais la philosophe, s'exprime ainsi sur le risque. Le risque est un besoin essentiel de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. D'ailleurs, il y a des situations qui, impliquant une angoisse diffuse, sans risque précis, communiquent les deux maladies à la fois. Le risque est un danger qui provoque une réaction réfléchie, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas les ressources de l'âme au point de l'écraser sous la peur. Dans certains cas, il enferme une part du jeu. Dans d'autres cas, quand une obligation précise pousse l'homme à y faire face, il constitue le plus haut stimulant possible. La protection des hommes contre la peur et la terreur n'implique pas la suppression du risque. Elle implique au contraire la présence permanente d'une certaine quantité de risque dans tous les aspects de la vie sociale, car l'absence de risque affaiblit le courage au point de laisser l'âme, le cas échéant, sans la moindre protection intérieure contre la peur. Il faut seulement que le risque se présente dans des conditions telles qu'il ne se transforme pas en sentiment de fatalité. Notre société refuse la fatalité et se caractérise par des exigences toujours plus grandes de sécurité. Et par voie de conséquence, la tendance générale est à l'extension de la couverture des risques et au recours à des mécanismes mêlant à des degrés divers assurance, responsabilité et solidarité. Bien, nous sommes dans les risques matériels et sociaux. Mais qu'en est-il du vrai risque majeur ? Celui qui nous guette tous et qui, au bout du compte, se réalisera. Celui-là aussi, on veut s'en prémunir. N'a-t-on pas inventé la couverture du risque d'essai ? Mais ce n'est pas celui qui court le risque qui est assuré, mais les ayants droit. La vraie couverture de ce risque serait de pouvoir rétablir l'assuré dans sa situation. Tous les domaines sont touchés par cette supercherie du risque zéro. Vous pouvez dormir tranquille. Tous les risques sont couverts, c'est-à-dire il n'y a plus de risque. Et le comble de la supercherie s'est installé dans l'inconscient collectif et individuel que l'être est bien plus qu'un Prométhée, il serait devenu immortel. Nous sommes passés du secours à la solidarité, ce qui a généré des évolutions des régimes de responsabilité. La puissance publique se trouve impliquée et joue souvent un rôle moteur dans l'évolution vers une socialisation accrue du risque. La boucle est bouclée. L'être, la société, tout le monde s'occupe du risque parce que chacun voudrait l'ignorer. Mais pour cela, il faudrait ne pas être homme et perdre toute conscience de notre finitude, inscrite pourtant dans la permanence du temps et de l'univers. Voilà, la discussion est ouverte. On en parle quand vous voulez.
Est-ce que vous voulez souffler un peu, puis après on repart sur le risque
ça,
ou...
ça serait bien, quelques secondes de musique, là, vous avez ça sous la main.
Oh oui, dans mon aéroplane blindé, justement, par Jacques Higelin.
Allons-y.
C'est parti.
De prodige, la fleur du meeting aérien, tout le gratin de la voltige, garde leurs casques à la main. Je vais sur leur exécuteur, malgré la sainte horreur du vide. Quelques figures intrépides dans mon aéroplane blindé. Suis-je distrait, moniteur, s'il vous plaît? À quoi peut bien servir à mon chaval? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait cet effet? Le fait que je m'effraie à compter dans la cabine de pilotage. Tous ces cadrans, tous ces leviers qui semblent narder mon courage. Juste au moment de démarrer,
c'est parti.
Mon Dieu, quel furieux décollage.
Tout
dans un boulot de barbelé.
Non, c'est plus, c'est assez.
Pendu au train d'atterrissage,
j'en suis tout retourné.
Quelques curieux face au sérieux handicap.
On
va taper un petit rasp.
On s'amuse comme des fous.
1300 kilos carreux.
Et plus chine d'un seul coup.
Mon copilote a une attaque.
Sauf qu'il
a gerbé tout son panier sur les genoux d'un sapeur-pompier. Quand on se demande bien ce qu'il fout, hein. Dans mon aéroplane bleu, il y a des sortes, ou alors siffler. Dans mon aéroplane blindé, un déluge providentiel fait que de belles effarouchées cherchent refuge sous mes ailes. Attention les gamines, pour le vol du cordon va y avoir du frisson dans les chines. À fond les gaz, on attaque un looping juste à la sortie du Grand Canyon. Hospitalise, j'ai comme la sensation d'être un chewing-gum au fond d'un lance-pierre. Mannequin bis, ne court pas en arrière. Ils ont dû monter l'hélice à l'envers dans mon aéroplane blindé. Y'a qu'à moi que ces trucs-là arrivent. Jamais vu ça même au ciné. C'est l'overdose de la dérive. Dès que le moteur a déhoqué, une merveilleuse technique. Tous les chômeurs et les piquets. Surtout pas les cris hystériques.
Grosse brute.
J'avais prévu en cas de chute quelques coupons de toile de jute pour me servir de parachute. Qu'est-ce qu'elles ont tout à ricaner? Ah oui, la terre se rapproche à la vitesse de la grande vue. Prêt pour la dernière taloche. Sous sa fragile sépulture de toile et de tôle éventrée, gîte un héros de l'aventure dans son aéroplane blindé.
Eh, monsieur, dessine-moi une chèvre. Monsieur, t'as seulement une chèvre.
Tu vois pas que je suis occupé, non? Pourquoi faire? Hein?
Bah, pour mon mouton, tiens.
Ça y est, l'avion s'est posé.
L'avion s'est posé et le petit prince a essayé d'aider Jacques Higelin, voilà, dans son atterrissage de fortune.
Très bien. Et il a compris ce que c'était que la rose.
La rose, oui.
Voilà.
Et l'épine encore.
L'épine encore. Alors, voilà, écoutez, moi je vous ai livré ce que m'a inspiré le mot risque. Maintenant, on n'est pas forcé de partager tous mes propos, et puis je serais content d'entendre un peu.
Justement, c'est le risque que l'on prend quand on essaye d'avancer quelque chose.
Voilà. Et je cours le risque d'avoir des interlocuteurs qui sont pas d'accord, qui ont d'autres idées, qui sont tout aussi respectables. Voilà.
Et justement, Sylvain, le risque, il le prend au quotidien par rapport à son métier, puisqu'il est apiculteur.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous fait prendre justement ce risque, et quel biais vous a amené à faire ce métier un petit peu risqué et plein de hasard, justement?
Oui, beaucoup de hasard, une probabilité assez élevée au niveau du risque. Avant de parler de l'abeille, je parlerai tout simplement du risque en tant que chef d'entreprise. C'est une première notion. J'ai bien aimé, il n'y a pas longtemps, cette citation d'un grand patron du CAC 40, que je ne citerai pas, qui disait que le chef d'entreprise, il y avait deux notions à respecter avant de s'engager. C'était la notion de courage et la notion de risque. Je ne puis qu'être entièrement d'accord avec lui, puisque s'il y a une vie en tant qu'acteur salarié, il y a aussi une vie au niveau professionnel, et des risques, on en prend tous les matins en se levant à ce niveau-là. Par la suite, bien évidemment, je pense que nos auditeurs sont bien d'accord avec moi, la notion de risque en apiculture, on va surtout parler de la piqûre d'abeille, mais elle viendra tout après un grand groupe de notions de risque qui font que dans notre métier, nous ne maîtrisons pas tout. Le travail au quotidien sera le même, l'engagement sera le même au fil des mois. Le risque pour nous, en tout cas de cause, est de ne pas maîtriser des paramètres, certains paramètres non maîtrisables par l'homme. Et voilà, Bernard, je vois que tu me fais de grands gestes. Il y a un risque que nous ne maîtrisons pas du tout, c'est la météo. Ce risque-là, ce facteur de risque-là, est une inconnue. Elle est difficile à résoudre. Elle fait appel à une certaine spéculation en matière de prise de décision dans notre métier. Mais la première prise de risque, pour moi, elle est là. Après, un petit exemple concernant le métier. Je pense que le risque le plus fou et le plus fort que nous prenons, nous, apiculteurs, c'est tout simplement de spéculer sur des miellets visés en vue d'une production. Acteurs dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous tous ici même, nous viserons par exemple la miellée de lavande. Il faut savoir que la majeure partie des apiculteurs de la région PACA vont faire leur chiffre d'affaires sur cette miellée-là. Cette miellée-là dure tout simplement 15 jours par an, et cette miellée-là va contribuer à faire tourner toutes les entreprises apicoles de la région. Mais, encore une fois, le facteur de risque est très important, parce que si il y a le moindre dérèglement climatique, les rendements vont grandement fluctuer, et avec directement des baisses ou des hausses de chiffre d'affaires, et forcément des risques pour l'entreprise et l'exploitation.
C'est un peu comme pour les vendanges.
C'est exactement la même chose, oui. Pour travailler avec pas mal de viticulteurs, dans le Var notamment, ils sont confrontés aux mêmes problèmes quand ils sont à une semaine, trois semaines de la récolte et qu'ils prennent une bonne dose de grêle. Cela anéantit des semaines, des mois de travail acharné, des investissements toujours aussi forts. Et tout ceci est réduit à néant en l'espace de quelques minutes suite à un violent orage de grêle.
Et les canons à grêle, c'est utile aussi pour vous ?
Non, en ce qui me concerne, non. Aucune utilité.
Ben, la démonstration que vient de faire Sylvain, c'est la démonstration même que l'homme peut écrire et dire tout ce qu'il veut sur le risque. Vous inquiétez pas, on a mesuré les risques. Il y a des aléas et des impondérables qui lui échappent totalement, car je ne crois pas qu'on ait encore trouvé ni la solution, ni les moyens d'orienter ou de changer la situation climatique de ce qui va se passer dans 3 jours, 4 jours, 5 jours. Sinon, je crois qu'on l'aurait mis en application.
Il y en a qui s'y emploient, mais qui ne trouveront jamais, hein, de toute façon. Ça, c'est pas possible de prévoir, même à court terme, c'est pas possible. Demain, on ne sait pas s'il y aura un rayon de soleil ou pas. On n'est pas sûr à 100%.
Hein. La météorologie...
Surtout pour Sylvain, quoi.
Oui, qui est une science qui s'améliore de jour en jour. Ceci étant, elle est quand même... elle est sujette à ce que l'on ne connaît pas.
Même avec les satellites, tout ce qu'ils veulent, il y aura toujours à un moment donné quelque chose qui ne sera pas maîtrisable, que ce soit pour la météo ou pour autre chose. Hein. Les bouchons, il n'y aura pas de bouchons, mais sauf que s'il y a un camion qui se renverse, il y aura un bouchon. Quoi, hein.
Voilà. Et c'est vrai qu'en entendant ce que nous expliquait Sylvain, il a parlé de quelque chose qui est fondamental pour l'apiculteur qu'il est, c'est la fameuse miellée. Quand elle a lieu, il faut que l'apiculteur et que ses ouvrières soient présents. Parce qu'il faut qu'ils soient là.
Il faut que tout le monde mette du cœur à l'ouvrage.
Ah, là, c'est plus que du cœur à l'ouvrage. Il faut y aller, là. Hein.
Mais c'est vrai, Bernard. Donc, à travers la notion de risque, il y a une définition que j'aime bien. C'est à travers cette notion de risque, il y a la possibilité, la probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. Mmh. On est en plein dans le cœur de ce qu'on est en train de dire. Malgré moult spéculations, il y a malheureusement, forcément, à un certain moment donné, des facteurs que l'on ne maîtrise pas.
Non. Et c'est pour ça que c'est une aberration que de prôner cette notion. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut exister, qu'on arrivera à résoudre ce problème, c'est-à-dire d'arriver au risque zéro. Et si un jour on arrive au risque zéro, le mot risque n'existe plus.
Ben ceux-là, ils essaient de s'en mettre plein les poches, déjà.
C'est pas possible. Mais ce qui m'a fait aborder ce mot... Je suis sûr que d'ici demain matin, en ouvrant une radio...
Fréquence Mistral, par exemple.
Fréquence Mistral, vous allez entendre le mot risque.
Demain, j'essaierai de m'y risquer, justement.
Voilà, vous y risquerez. Quand vous recevez votre courrier en boîte aux lettres, vous avez au moins une fois par an, sinon deux, des lettres de votre assureur qui vous parlent des risques. Est-ce que vous voulez vous assurer pour tel risque ? Voilà,
mais sans danger, est-ce qu'il y a un risque, justement ?
Ben, je ne pense pas. Non. Et puis, est-ce que...
Qu'est-ce qui amène le risque ? Le danger ou le risque amène le danger ou le danger amène le risque ?
Moi, je crois que le risque, il est amené par la prise de conscience de ce qui nous entoure. C'est ça, mesurer le risque. C'est savoir ce qui nous entoure et comment on peut arriver à éviter telle ou telle situation. Mais on rejoint ce que disait tout à l'heure Sylvain. On ne peut pas tout prévoir, donc le risque demeure. Et moi je dis toujours de façon un peu provocatrice, le fait de naître, ça y est, on est dans le risque. Le fait de naître, on court le risque de quoi ? Que ça s'arrête rapidement. Hein ? Et malheureusement, ça se produit... assez souvent. Hein ? Donc ça, c'est le plus grand risque auquel l'homme est confronté, c'est le risque que ça s'arrête tout de suite.
Hein ? Et les dangers pour Sylvain, quels sont-ils par rapport à votre métier ? Bon, il y a la météo, ça c'est sûr, mais est-ce que le fait de travailler avec les abeilles, puisque c'est la matière première, quoi, hein, est-ce que côtoyer les abeilles, c'est un risque et un danger au quotidien ?
Oui, je vais y répondre. Je vais revenir simplement sur l'étroite relation en fait entre les deux mots, entre le mot danger et le mot risque. Ils sont à mon sens très liés. Le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte aussi l'éventualité d'un danger, en est pour moi le parfait symbole. En dehors de cette réflexion-là, moi dans mon métier, à la limite, pour être très honnête, ce que je dirais, la notion de risque la plus engagée à mon niveau... reste simplement un accident au cours d'une transhumance quand vous avez 50-80 ruches sur le camion, rester coincé dans une cabine. Bon, ben, je vais venir forcément sur un autre sujet, mais il y a la probabilité au premier abord dans la réflexion de l'accident qui, moi, m'a mené vers certaines actions. Là où je veux en venir, c'est que je ne vais que spéculer une fois encore sur la notion d'accident et les risques qui en découlent. À savoir 50-80 ruches, on va parler de quelques millions d'abeilles sur la route. Si je venais à être coincé dans ma cabine, à travers la notion de risque, moi je me suis toujours prémuni d'avoir au moins un masque dans ma cabine, au cas où je sois coincé, que je puisse préserver et protéger mon visage. Ce qui est, on va faire appel là à quelques notions de vitales, on va dire. Après, la notion de risque... la plus éloignée en ce qui me concerne dans le job, je vais dire, c'est peut-être du jour au lendemain de ne plus être, non réactif quant aux piqûres d'abeilles, puisque je suis immunisé depuis 20-30 ans maintenant, mais il y a toujours ce risque d'être un jour, déjà, sensible et avoir un choc. Ça peut conduire à la mort.
Ah oui, bien sûr.
Et pour les abeilles, le risque actuel, c'est qu'elles se fassent... elles ont une réactivité certaine, mais elles se font attaquer actuellement. Ça fait quelques années qu'il y a des espèces de frelons asiatiques ou des guêpes asiatiques qui essaient de leur... les mangent, quoi. Elles veulent être dominatrices. On sait que l'abeille est très réactive, justement, d'elle-même. Elles essayent de se prémunir en se liguant contre ces frelons. Est-ce que ça, c'est un gros problème pour vous, ça ?
Ben, forcément, puisque c'est d'actualité, on ne le niera pas. La notion de danger à ce niveau-là, ben, c'est une espèce invasive qui débarque du jour au lendemain, qui, à la fois est un danger pour l'être humain, puisqu'il y a eu plusieurs cas de décès sur notre territoire, et au-delà, un danger aussi également pour l'espèce Lapimellifera, qui est l'abeille, puisque elle participe au dépérissement des colonies.
Alors, sans vouloir noircir le tableau que vient de dépeindre Sylvain, on sait qu'aujourd'hui, ce frelon, il est aux frontières de notre région.
Je vous confirme qu'il est même dans le département.
Il est même dans le département. Hein, et que...
et puisqu'on est sur le... Excuse-moi de te couper la parole, Bernard, puisqu'on est dans les espèces invasives, on va informer nos auditeurs que arrive d'Italie, et c'est un cas très préoccupant, Athenia tumida, qui est redoutable et qui a décimé quelques centaines de colonies dans le sud de l'Italie. Et je sais que les services vétérinaires sont...
Mais c'est quoi? C'est un virus? C'est un insecte?
Non, c'est un petit insecte qui colonise, qui a un développement exponentiel, qui fait des ravages dans les colonies, qui détruit tout, la cire, et qui, par conséquence et par voie de conséquence, dépeuple les colonies.
C'est le guide des ruches, en gros.
Si on veut.
Mais qui va poser un vrai problème, certes économique, mais écologique aussi. Hein. Forcément. Hein.
Forcément, quand l'équilibre écologique est touché, il y a des répercussions en cascade.
Ah, absolument.
On écoute un petit peu de musique, messieurs.
Mais on y va.
On n'est plus en été, mais on va écouter Summertime de George Gershwin par René Holsted.
Ah bon?
Summertime. And the living is easy. Fish are jumping, and the curtain is high. Your dad is rich. And your ma is good looking, so hush, little baby, don't you. One of these mornings, you're gonna rise up singing. And then you'll spread your little wings and take to the sky, take to the sky. But until that morning, there's nothing but summertime, yes, the time I'm talking about, summertime, and the living, summer living, and the living is so fine. The fish are jumping, and the curtain is high. Rich, your dad is fairly rich, and your mama, hot mama, your mama's so good looking. So hush, little baby, don't you cry. Thank you.
Voilà, messieurs.
Alors ?
Nous étions en train de parler hors micro justement de l'abeille qui essaye de se mobiliser contre ces frelons asiatiques. Là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Sylvain, par rapport à justement cette abeille d'elle-même, enfin les abeilles en elles-mêmes, qui essayent de se protéger quoi, de ce...
Oui, oui, simplement en deux mots, l'abeille a trouvé une petite parade qui est très simple. Pour éliminer ce frelon qu'elle ne peut combattre autrement, elle s'est aperçue en fait que, avec l'aide de plusieurs ouvrières, elles entourent ce frelon de façon très proche, avec des mouvements très prononcés, ce qui va provoquer une élévation de la température. Donc ce frelon va en clair décéder par choc thermique. Ah. C'est ce que l'abeille a développé naturellement. Et moi, j'estime que c'est très remarquable.
Ah, tout à fait.
C'est l'instinct de survie.
C'est l'instinct de survie, on va dire, oui. Nous autres humains, on aurait employé peut-être d'autres procédés. Elle a trouvé le chemin le plus court, le plus naturel possible qu'il soit. Et ce n'est simplement à travers ce mécanisme-là qu'une simple protection, mais sans éradiquer tous les maux que met en œuvre ce frelon, pardon.
Face au danger, elles sont là, quoi.
Face au danger, elles ont su réagir, absolument.
Elles ont réagi, mais ceci étant, le danger est certainement incommensurable par rapport aux moyens dont elles disposent. Car, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même des colonies assez conséquentes, hein, ce frelon, qui, à une certaine époque de l'année, disparaît. Il n'y a que, la reine qui s'enterre et qui ressort au printemps pour recommencer à pondre, mais pendant toute la période froide, les nids sont vides.
Absolument, oui.
Les nids sont vides. Donc, c'est compliqué quand même. Et on ne sait pas trop, d'après ce que j'ai lu quand, il y a 48 heures, on ne sait pas trop trouver là où se niche la reine pendant la période froide. On ne sait pas encore trop le faire.
Ça viendra.
Il faut l'espérer.
Il faut l'espérer, hein. Absolument.
Ouais, et puis... il faut que cet espoir soit partagé par tous les consommateurs de miel.
Tout à l'heure, vous parliez de la transhumance que vous faisiez avec vos ruches, mais le risque que vous prenez si vous avez un accident, toutes les abeilles qui peuvent se déverser sur la route, c'est un gros risque pour les automobilistes, ce que vous voulez, les promeneurs, non ?
Oui, il y a forcément un risque à ce niveau-là, mais il est secondaire, parce que si l'on imagine la probabilité que cela arrive... Même si un accident de ce type venait à survenir, ces abeilles-là, de toutes les façons, une fois que l'on aura évacué le fourgon et ses ruches restantes, elles vont se dissiper dans la nature. Et une abeille ne reste jamais sans habitat. Donc forcément, elles vont ou, d'une part, se regrouper sous forme d'essaim, et à ce moment-là, elles vont trouver un tronc d'arbre ou une vieille ruche, ou forcément, parce que des ruches, il y en a partout dans la nature, elles vont se récupérer dans d'autres ruches. Le plus gros danger, c'est pour le conducteur, j'ai envie de dire.
Ah oui.
Et pour les quelques passants à vélo, le temps d'une journée.
C'est les promeneurs et ainsi de suite.
Hein. Absolument. Non, mais à ce moment-là, il y a réellement une notion de risque. J'étais l'autre jour en train de discuter avec un ami qui souhaitait installer un rucher école d'une association... sur un terrain, le terrain d'un tiers, la loi impose des distances quant à la disposition de ces ruches par rapport aux habitations. Et on était justement en train de débattre sur la notion de danger, la probabilité de risque de piqûre pour un enfant. Et forcément, à travers le sujet du jour, je lui disais d'être très prudent et forcément de bien suivre la législation en cours.
Et à ce propos, pour les enfants ou pour n'importe quel... Quidam, en tant que dirais-je, hein, une piqûre d'abeille, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer la douleur, ce qu'il y a par rapport au dard, ce qu'il y a quelque chose à...
Ouais, d'abord, il ne faut surtout pas appuyer sur le dard, parce que ce qui reste dedans, vous l'injectez.
Voilà, le premier réflexe à avoir, et on parle bien d'une piqûre d'abeille, pas d'une guêpe ou autre. Une piqûre d'abeille, il y a deux possibilités. La première, elle est très simple et superficielle. Là où je veux en venir, c'est que par exemple sur la main, il ne va pas rester le dard. Donc à ce niveau-là, on va parler de piqûre superficielle, il n'y a pas grand-chose à faire. Si le dard n'est pas resté, cela veut dire que tout le venin n'a pas été injecté. Ouais. La deuxième possibilité, c'est justement quand il reste le dard avec souvent sa poche à venin, le premier des réflexes à avoir, c'est d'enlever ce dard, puisque Le venin diffuse par capillarité à travers l'aiguillon, tout simplement.
Ouais.
Donc, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Après, quant au remède de grand-mère par rapport aux piqûres d'abeilles, je me passerai des détails. Ouais. Chacun dit un petit peu la sienne. Il y aura les puristes qui iront en pharmacie acheter un aspi-venin. Je ne l'ai jamais pratiqué, étant immunisé. Il y a d'autres sources de guérison que je tairai parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet.
Absolument. Ouais.
Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Non. Et puis, vous savez, très sincèrement, il n'y a pas 50 solutions. Soit la personne est réactive. À ce moment-là, il faut éventuellement aller rapidement aux urgences et laisser la médecine intervenir. Soit il n'y a pas grand-chose à faire. Ça gratte un petit peu. Il est inutile de se gratter. Quelques heures après, la douleur est passée, voire même quelques minutes après.
Oui.
Moi, je vais vous dire très sincèrement, je me fais piquer au quotidien du 1er mars jusqu'à, on va dire, fin juin. À peu près 10-15 fois par jour en travaillant, c'est inévitable. J'ai la chance d'être immunisé. La probabilité fait que peut-être un jour, je peux être réactif. Je n'y pense pas en travaillant. Je ne pense même plus aux abeilles ni aux piqûres, sincèrement.
Non, c'est vrai que ça fait une piqûre d'abeille, ça fait mal sur le moment. Mais comme dit Sylvain, si on a la bonne réaction, c'est-à-dire d'abord ne pas s'affoler, et puis il y a une chose qui marche très bien. Hein. Si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau fraîche ou de l'eau glacée, mettez un peu dessus.
Ça c'est un remède alors.
C'est pas un remède, c'est pas un remède, mais on sait que le froid est quand même un peu anesthésiant.
Ah, ça anesthésie, oui.
Ouais, donc voilà. Hein. Et puis quelques heures après, l'enflure a disparu. Hein.
Oui, l'enflure a disparu, oui.
Ouais, non, mais sérieux. moi, je me fais piquer aussi de façon très régulière. Bon.
Mais il y en a qui se piquent au jeu. C'est aussi dans la vie, c'est bien aussi de se piquer au jeu de ce qui se passe, par rapport au destin.
Mais
hein.
Ça, là, c'est eux qui se piquent, ils ne se font pas piquer.
Ah oui, ça, c'est une autre chose, oui.
C'est autre chose, ça. C'est eux qui émettent leur propre venin. Une addiction, c'est la même chose, hein.
Oui, exactement. Oui. vous voulez parler également de la fortune de mer, que je ne connaissais pas, ce terme fortune de mer.
La fortune de mer, c'est un vieux terme, ça.
Puisque nous gravitons toujours autour du risque. Hein.
Voilà, fortune de mer, c'est quand un marin se trouve dans des situations compliquées et qui arrive à redresser la situation et à se sortir du mauvais pas ou de la mauvaise passe. C'est plus adapté à la mer, la mauvaise passe. On dit c'est une fortune de mer, il a réussi à se sortir de ça.
Les toreros peuvent être aussi dans une mauvaise passe.
Les toreros peuvent être aussi dans une mauvaise passe, mais je ne sais pas s'ils peuvent rétablir aussi facilement.
Je ne sais pas.
Parce qu'avec un coup de corne dans l'estomac ou dans le ventre, je ne sais pas comment on s'en sort. Hein.
Donc oui, en mer, il y a beaucoup donc la fortune de mer.
Risque.
Oui, le risque, comme on dit, pétole en mer, c'est quand il n'y a pas de vent, mais quand il y a un coup de tabac, ça peut arriver très très vite. Hein. Comme en montagne, hein, le vent peut tourner, les risques de météo peuvent changer très rapidement.
À ce propos, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques en montagne, il y a des risques en mer, hormis quelques situations imprévisibles, même pour les grands. De ces disciplines. Mais en général, les accidents, ils n'arrivent pas aux gens qui sont bien préparés, bien formés. Je répète, ça peut arriver, mais...
Ils peuvent être aguerris, mais ils ne sont pas à l'abri.
Ils ne sont pas à l'abri. Je sais bien qu'un alpiniste n'est pas à l'abri d'un rocher qui dévisse. Très bien. Mais quand on voit tous les accidents qui se passent l'été en montagne, à la belle saison en mer, c'est souvent des gens qui...
Des imprudents.
Des imprudents. Hein, et dernièrement, il y a des gens qui se sont fait prendre, je ne parle pas des inondations, ces choses-là, mais dernièrement, il y a quelques semaines, il y a des gens qui ont laissé leur vie dans des ports, alors que tous les gens leur disaient, il ne faut pas sortir.
Ah ben non.
Il
ne
faut pas sortir, mais on sort quand même.
Ben c'est bien, ça, il faut voir.
Voilà, on sort quand même, alors après...
Oui, enfin, ça, les gens sont incités à sortir pour se montrer aussi. Quand il y a les caméras, il faut être là, il faut être sur la photo, ça fait bien aussi.
Oui.
C'est un danger inconsidéré. Hein.
Oui.
Bien entendu. Quoi,
est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent être sur la photo allongés dans un cercueil aussi?
Ah bah ça, c'est comme les gens qui vont se baigner et qui prennent le risque quand il y a le drapeau rouge. C'était pas cet été-là, mais l'été précédent, du côté de Montpellier, là-bas.
Oui.
Le drapeau rouge et les pompiers, ils n'allaient pas dans l'eau, ils vont quand même dans l'eau. Et bah oui, allez-y. La Méditerranée, c'est traître quand même. Comme toute mer, hein, même si elle est fermée.
Mais c'est même plus courir un risque, ça. C'est savoir qu'on va...
C'est tenter le diable.
C'est tenter le diable, mais c'est pas courir un risque.
Oui. Et si je peux me permettre, il n'y a aucune notion de calcul ou de probabilité à travers ce genre d'agissement.
Aucun. On ne peut pas dire. Il a mesuré le risque, il n'a rien mesuré du tout. Il savait que de toute façon, il y allait.
Ah oui, non, mais ça, entièrement d'accord. Comme la personne qui va en tong en montagne, quoi. Hein.
Pareil.
Ouais, il va monter, il va se fouler une cheville pour descendre, ça va être une catastrophe.
Il y a quelques années, pour en parler de montagne, il y a un sommet qui n'est pas infaisable, puisque je l'ai fait plusieurs fois. C'est le Mont Pelat qui se situe vers le lac d'Alos, 3050, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres dans le coin. Et on a fait ça une fois, et en redescendant, on a vu des gens qui, effectivement, étaient avec des escarpins ou des tongs. Bon,
Et c'est pas faute de les prévenir, pourtant, parce qu'il y a tous les médias qui sont là, comme nous, qui essayons de prévenir. Hein.
Ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Mais c'est plus du risque, ça, je veux dire. Pour moi, le risque, le vrai risque, c'est celui que... C'est l'impondérable que l'on n'a pas pu mesurer avant... Et qui nous tombe dessus parce qu'on n'a pas pu le mesurer, on n'a pas pu. Voilà. Hein. Et
Mais ils prennent quand même un risque en allant là-bas de qu'il leur arrive quelque chose. C'est, cette notion-là, même si elle n'est pas calculée, heureusement, ils vont à l'aventure, comme on dit. Mais l'aventure, quand on met des gens, des sauveteurs en danger, c'est plus pareil.
C'est ce que j'ai dit. Mmh. Voilà, ils font courir des risques à d'autres personnes. Mmh.
Absolument. De toute façon, le risque, je l'avais noté aussi, c'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte aussi l'éventualité d'un danger. On est en plein dedans.
Complètement.
Après, l'homme ne s'est jamais relevé aussi bien que quand il est dans la difficulté pour revenir à ta fortune de mère.
Absolument.
Mais à travers une citation que j'aime beaucoup, Bernard, qui est de Jeanette Winterson, je l'aime beaucoup, c'est « Ce qu'on risque révèle ce que l'on vaut ». Mais c'est bien vrai.
Bien sûr.
Ce que l'on vaut révèle ce que l'on est.
VAUT, hein, pas VEAU.
Absolument. Mais cela reflète parfaitement l'individu que l'on a en face de soi, et voire soi-même.
Hein. Eh oui. Mais bon, il y a aussi la formule qui consiste à dire qu'il ne risque rien n'a rien. Hein, voilà. Mais il faut quand même que les gens comprennent que l'on ne peut pas se dédouaner de tout risque. C'est pas possible. Mmh. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le risque majeur, on ne peut pas s'en dédouaner.
Y a-t-il une place pour le hasard?
Là, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Si on pouvait mesurer ce risque et le traiter et l'annihiler... Ouais, ça serait, comme je disais tout à l'heure, ça serait Prométhée. Hein. Voilà. Mais c'est bien le risque majeur que chacun court, et il faut le savoir. Et sachant ce risque couru, je crois que ça permet une certaine lucidité, et ça permet de savoir ce qu'il faut faire et ne faut pas faire.
Ça, c'est l'expérience après.
C'est l'expérience. Mais l'expérience, c'est la somme des erreurs reconnues.
Aussi, oui. Qui ne tente rien à rien, comme vous disiez. Voilà.
Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent ou qui pensent qu'il ne faut pas courir des risques. Au contraire, il faut courir des risques, mais...
Mesurer.
Des risques mesurés autant que possible. Parce qu'on ne mesure jamais tout. Hein. S'il savait qu'il va y avoir une grêle, il n'irait pas essayer de ramasser son miel, il attendrait. Hein.
Oui, mais s'il attend trop, il n'a plus de miel.
Oh, quand il est dans les caisses, il ne part pas tout de suite.
On va écouter un petit peu Nino Ferrer, si cela vous dit.
Ah, c'est pas mal, oui.
Avec grand plaisir.
Les yeux de Laurence.
Ah.
— danse un soir dans je ne sais quelle galerie de peinture. Nous avons longtemps parlé d'art, d'histoire et de littérature. Moi j'étais très très amoureux, je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, bizantin. Mais je suis plein d'indifférence devant les temples de Byzance et tous les musées de Florence. Car dans mon lit, j'aime mieux les yeux de Laurence. Je préfère les jambes de Laurence, les cheveux, les seins, la peau de Laurence. C'est plus joli. Après nous sommes allés dîner, Laurence et moi, dans un snack bar. Et nous avons longtemps parlé, homard, canard, calmar, caviar. Moi j'étais très très amoureux, je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, bizantin. Mais je suis plein d'indifférence devant les banquets de Byzance et tout ce qu'on mange en Chine ou en France.
Les yeux de Laurence, chers à ce pauvre Nino Ferrer, sur Fréquence Mistral, radio locale à Digne, sur les 99.3, ainsi que sur internet fm.digne.free.fr. Voici, sur notre nouveau site, fréquencemistral.com, vous pouvez avoir toutes les infos que vous voulez, et notamment la rediffusion de l'émission Diagonale, qui sera mise en ligne très très rapidement.
Ah bon, ben c'est bien, très très bien. On va donc pouvoir s'écouter, hein. On va pouvoir s'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à propos du risque ?
Alors oui, toujours en antenne, le casse-cou qui, de nature, quand il est jeune, s'aventure dans des contrées un petit peu spéciales, pourra peut-être se retourner avec le temps et avec la maîtrise un petit peu de ce qu'il a vécu, mais la personne qui veut s'improviser, c'est moi, je vais aller me balader en montagne en tong. Alors que la personne qui est un petit peu plus expérimentée va y aller en montagne, il y aura des risques, hein, la personne qui ira en montagne avec des guêtres et compagnie, des chaussures qui protègent les chevilles, quoi. Mais celui qui va y aller à la fleur au fusil, c'est peut-être un petit peu. Ce sont des risques qu'ils vont prendre, inconsidérés, mais il va aller se balader, il va peut-être apprécier, mais déjà la balade, elle va pas être agréable pour lui en tong, marcher sur des cailloux. C'est pas forcément bien, quoi, bon.
Oui, mais c'est une des premières phases de la gestion. Et là, forcément, la réflexion va nous amener à quelque chose qui est implacable. C'est le décalage entre les individus au niveau de cette perception de risque. Cette sensation de risque, c'est un phénomène très subjectif, voire irrationnel. Mais ce décalage entre les individus va dépendre de cette première phase de la gestion, qui est la perception. Après cette perception, viendra forcément une deuxième phase qui va être l'identification du risque. Donc, à ce niveau-là, des signaux faibles seront détectés comme des signaux forts qui vont encore, par voie de conséquence, agir sur les individus. Et en dernier lieu de cette phase de gestion de risque, dans un premier lieu, donc la perception, l'identification, et après, il faudra bien évidemment établir un taux de criticité.
Oui.
Et qui va dépendre, de la probabilité qu'un facteur de risque survienne.
Bien sûr. Et moi, je crois qu'il ne, il ne faut pas souhaiter être dans une attitude où il y a, en fait, dans des situations où il n'y a pas de risque. C'est inhérent à l'existence, enfin, à notre existence sur la Terre. Il y a des risques partout, il faut les accepter. Mais notre travail et notre mission n'est pas d'essayer de les éviter et essayer de les annihiler. Il faut les analyser, les mesurer et faire en sorte de pouvoir vivre avec ces risques. Parce que de toute façon, on ne pourra pas les supprimer totalement. Le fait que des gens vivent, ne serait-ce que dans une ville, dans un village, vous parliez de la route tout à l'heure, vous vous déplacez avec votre véhicule sur la route, vous croisez des gens, vous en dépassez d'autres, vous êtes acteur du risque. Et ce risque-là, vous pouvez dire, je ne veux pas le courir, vous restez chez vous, vous ne touchez plus votre véhicule. Mais on a besoin de se déplacer, il faut savoir qu'il y a un risque, et que ce risque, il faut le mesurer, l'analyser, et peut-être à un moment donné, essayer de le contrecarrer pour l'éviter.
Ah, il faut lever le pied, déjà, quelqu'un qui vous ouvre, oui, oui.
C'est tout. Mais sans vouloir faire du verbiage pour rien, on peut pas se dire, moi, je veux essayer de vivre dans un cocon, dans une
bulle,
dans une situation où il n'y a pas de risque. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et finalement, est-ce que ça serait bien si on était dans une situation où il n'y a pas de risque?
Personne ne peut répondre à ce genre de questions.
Voilà, mais je peux me la poser. Est-ce que ça serait bien, finalement,
Là, le risque, déjà, en venant à la radio, on ne sait pas ce qu'on va dire. Au départ, il y a une trame.
Oui.
Ça, c'est un risque aussi.
Oui. Mais je reviens toujours à cette idée qui consiste à être conscient que le fait d'être, c'est courir le risque de ne plus l'être.
Oui, mais ça, on n'est pas maître de notre destin avant.
Non, on n'en est pas maître. Mais
non, mais puisqu'on est conçu, c'est pas nous qui nous concevons. Voilà ce que je veux dire.
Oui, non, je suis d'accord.
Le risque est fait par nos parents de nous mettre au monde.
Le risque est pris par nos parents de nous mettre au monde, et nous qui courons le risque de nous arrêter. D'accord.
Ça s'arrêtera toujours un jour ou l'autre, mais...
Oui, ça s'arrêtera. Mmh. Alors, imaginez que ça peut... On ne peut pas le courir, ce risque. Non, mais il faut le savoir, il faut l'accepter. Et puis, vivre ce risque permanent le mieux possible.
Ce risque permanent, peut être usant.
Ah, absolument.
Par contre, pour revenir à ce que tu disais, Bernard, une vie sans risque, à mon sens... Et personnellement,
ça manque de sel.
Ça paraît très compliqué, ça manque de sel.
Non, mais je pense que c'est même pas possible. Enfin, voilà. Est-ce que les grands solitaires ou les ermites, est-ce qu'ils vivent sans risque?
Mais elles prennent toujours le risque qu'il y ait quelqu'un qui vienne les déranger.
Si, d'accord.
Voir la vie de Brian de Monty Python.
D'accord. Mais est-ce qu'ils vivent sans risque? Je crois pas.
Ils prennent toujours le risque de s'isoler, déjà. Un ermite, il prend le risque. Hein.
Oui.
Comme quelqu'un qui fait vœu de mutisme. Jusqu'à quand?
Oui, et puis, ils risquent d'aller à leur propre destruction, d'ailleurs.
Également, oui.
Je le crois.
Bien, messieurs, il est bientôt l'heure de céder l'antenne au journal de RFI.
Oui.
Merci Bernard, merci Sylvain pour cette émission Diagonale.
Oui.
Merci à vous.
La prochaine émission Diagonale sera au mois de janvier.
Mois de janvier, puisque...
Nous serons en 2015.
Mon Dieu, c'est vrai, 2015.
Eh oui, 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 oui. Donc, bonne fête.
Ben, bonne fête aussi.
Merci de même et prenez pas trop de risques pour les fêtes de fin d'année si vous voulez qu'on se retrouve au mois de janvier.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, bonne soirée.
Retrouvez nos émissions sur internet. fréquencemistral.com.